fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.
Madame Rosière, bonjour.
Bonjour.
Et effectivement, ravi de vous retrouver pour cette fois-ci nous présenter vraiment dans le concret ce que peut être le travail d'une députée comme vous qui a souhaité être le rapporteur d'un projet sur les appellations géographiques non agricoles. C'est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez mené de longue date, et cette conférence que vous allez donc présenter est un peu le préambule de ce qui sera vraiment la séance plénière.
C'est ça. Ce projet qui demande que les protections des indications géographiques soient étendues aux produits non agricoles, aux produits non alimentaires, aux produits de l'artisanat, aux couteaux, à la céramique, c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai souhaité mener dès mon arrivée au Parlement européen, dès le mois de juillet 2014, avec l'attribution d'un rapport, un travail d'élaboration d'un projet de texte, une discussion avec mes collègues. Et là, cette conférence qui a lieu une semaine avant, c'est l'occasion d'illustrer, de rendre les choses tangibles, réelles, de donner à voir la réalité de ces produits qui pourraient bénéficier d'une telle protection. Donc le but de cette conférence, c'est d'écouter les professionnels qui seront nombreux pour expliquer leur métier, quels sont leurs produits, quel est leur savoir-faire, quelle est leur valeur ajoutée, et de sensibiliser mes collègues députés pour que, je l'espère, ils m'apportent ensuite leur soutien sur mon rapport.
Eh bien, grâce à vous, Madame Rosière, nous avons pu pénétrer, nous, en tant que Divergence FM, au sein du Parlement européen, et retransmettre ainsi cette conférence. Merci encore.
Autant tenter de nous inspirer de ce qui fonctionne en matière de protection d'indications géographiques. Et donc pour cela, nous avons donc M. Christian Amblard, qui est le délégué général du syndicat des pruneaux d'Agen, qui va nous parler donc de la manière dont les pruneaux d'Agen ont pu tirer bénéfice de la protection des indications géographiques agricoles.
Oui, bonjour. Je suis délégué général du syndicat du pruneau d'Agen et j'ai eu la chance de participer depuis le premier jour au départ de l'idée et ensuite à la création du signe de qualité, ensuite à sa gestion. Je suis membre du comité exécutif d'origine et je suis en même temps, j'ai une autre troisième fonction qui est très utile, c'est que je suis le secrétaire général de l'Association internationale des producteurs de pruneaux qui réunit l'ensemble des producteurs du monde, non pas autour des indications géographiques, mais autour du produit. Et c'est un forum très intéressant pour faire passer l'idée de la distinction des produits en fonction de leur origine. D'abord, quelques mots sur le pruneau. Je voudrais vous parler du bénéfice qu'a apporté l'indication géographique à partir d'un exemple concret qui est celui du pruneau. Et vous dire d'abord ce que c'est. Donc c'est une prune d'une variété très spécifique qui s'appelle la prune d'Ante, qui est récoltée au mois d'août-septembre à pleine maturité, qui est séchée immédiatement par le producteur lui-même. C'est une originalité. Ce n'est pas une industrie, mais c'est le producteur lui-même qui sèche ses prunes et qui est livré ensuite à un industriel qui va préparer le produit à la consommation. Donc il va le calibrer, le trier, le stocker, et le conditionner et ensuite le commercialiser. Donc il le commercialise à des distances très lointaines puisque c'est un produit qui se consomme en très petites quantités et qui nécessite donc des circuits commerciaux très étendus pour la commercialisation. En France, 70% de la production est consommée en France, mais aussi sur les pays d'exportation qui sont essentiellement ceux de l'Union européenne, mais aussi l'Afrique du Nord et d'autres pays. La production mondiale. Alors pour comprendre le problème du pruneau d'Agen, il faut comprendre sa concurrence. La concurrence du pruneau d'Agen, elle n'est pas en Europe. Elle n'est pas en Europe, elle est dans des pays tiers. Trois pays tiers qui sont concurrents, qui sont la Californie, États-Unis, le premier concurrent, 90 000 tonnes de production, alors que nous-mêmes produisons 35 à 40 000 tonnes, le Chili avec 80 000 tonnes et l'Argentine avec une trentaine de milliers de tonnes. Donc, ce sont les seuls pays, à quelques détails près, qui sont présents sur le marché international et auxquels on a affaire. On a affaire, on va le voir, à des soucis d'utilisation de notre nom, particulièrement par les pays d'Amérique du Sud. C'est une production, le pruneau d'Agen est une production quasi millénaire que l'on date au XIIe siècle, mais qui a pu exister auparavant, puisqu'on a trouvé à Agen, dans des tombes gauloises du IIe siècle avant Jésus-Christ, des noyaux de prunes qui, selon toute vraisemblance, étaient séchés. Donc c'est un produit extrêmement ancien dans cette région du monde et qui connaît une réputation très très forte par rapport à son origine, essentiellement grâce au fait que c'était un produit, c'était l'un des très rares fruits qui était transportable sur les bateaux pour le bon état de santé des marins, de la marine à voile, donc au XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc c'est un produit qui s'est retrouvé, qui a voyagé beaucoup dans le monde et qui s'est diffusé de ce fait-là. Donc si on a planté des pruniers en Californie, c'était pour nourrir les chercheurs d'or de la ruée vers l'or. Et en allant en Californie, il fallait faire le tour par le Cap Horn, puisque le canal de Panama n'existait pas au XIXe siècle, donc on passait par le Chili, on s'arrêtait à Valparaiso. Et à côté de Valparaiso, on a trouvé des terrains favorables et on a planté des pruniers. Et tous ces pruniers venaient d'où? Ils venaient d'Agen. C'est tous les pruniers qu'on trouve dans le monde et qui sont nos concurrents, ont été plantés à partir d'une variété qui venait de chez nous au départ. Face à ces concurrents du Nouveau Monde, nous avons, nous, un coût de production par kilo qui est du double de celui de la Californie et 3 à 4 fois celui du Chili et de l'Argentine. Nous avons des prix de vente qui sont meilleurs que les leurs, puisque notre produit se distingue. Une catégorie de consommateurs préfère largement le nôtre, donc on arrive à les vendre 45 à 50% plus cher que le plus cher de nos concurrents. Mais ces 45 à 50% plus chers sont même insuffisants pour couvrir la différence de coûts de production. Donc nous avons un problème d'adaptation encore de nos coûts de production. Nous sommes obligés de renforcer encore notre différenciation pour pouvoir continuer à rester dans le marché. Donc pour nous, une différenciation renforcée est tout à fait vitale. Notre spécificité a besoin d'être défendue pour que nous puissions maintenir notre différence de prix, enfin la différence de prix qui justifie la différence de qualité que nous nous imposons pour continuer à exister. Donc ceci étant, nous avons résisté. Nous avons résisté parce que sur le marché européen, qui est le plus gros marché pour le pruneau, il n'était pas possible d'utiliser notre nom pour présenter un produit différent. Si ça avait été le cas, nous n'existerions plus. Là, je peux l'affirmer complètement. L'histoire de la protection, c'est que à plusieurs reprises dans l'histoire, 1948, 60, 66, 81, les producteurs avaient essayé de protéger leur dénomination et n'ont pas réussi pour deux raisons. Et des raisons qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits et pour beaucoup de produits. D'abord, les dispositifs juridiques existants étaient mal adaptés à cette production. À l'époque, il n'existait en France que l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Et l'aval industriel de la filière, c'est-à-dire les transformateurs de pruneaux, ceux qui sont qui achètent le pruneau sec pour le préparer à la revente, étaient réticents à la mise en place de cette protection. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de 1972, on a eu un arrêté ministériel franco-français, qui a permis de réserver le nom de pruneau d'Agen aux pruneaux provenant de France et qui étaient d'une certaine qualité. Donc ceci, ça ne serait plus possible aujourd'hui avec le droit européen, mais à cette époque-là, c'était possible. Et ce simple dispositif nous a permis de continuer notre expansion sur le marché français et accessoirement d'exporter du pruneau sans prendre trop de risques. Cette disposition a été suffisante jusqu'à ce que le traité de l'Union ouvre les frontières et supprime les barrières douanières. Et là, nous ne pouvions plus résister puisqu'il devenait possible d'amener du pruneau d'Argentine sous le nom d'Agen en Espagne, par exemple, et de le faire entrer en France, qui était le marché où ce produit se valorisait, de le faire entrer en France sous le nom de pruneau d'Agen. Donc nous avons à ce moment-là mis en place le dossier d'IGP Et l'étape suivante, c'est que nous sommes protégés au niveau européen, mais nous avons besoin de protection au niveau des pays tiers. Et au niveau des pays tiers, donc, nous sommes entrés dans le mouvement Origin au moment de sa création. Nous avons participé à sa création. Et Origin nous a aidés pour un certain nombre de choses. Au départ, on pensait, on se battait pour avoir un accord multilatéral à l'OMC. On n'a pas réussi. L'OMC s'est affaiblie. Mais Origin s'est adapté et a participé à la mise en place des accords bilatéraux, a suivi la mise en place des accords bilatéraux. Notre produit a bénéficié de ces accords bilatéraux de l'Union européenne. Nous continuons à exister sur le marché avec 15% des ventes mondiales. Nous sommes protégés sur des marchés clés comme la Chine, le Canada, la Corée du Sud. Et une des dernières failles qui nous gêne pour notre commercialisation, c'est l'Algérie. Mais la Commission travaille sur l'Algérie. Nous avons participé d'ailleurs, j'ai participé personnellement à un colloque en Algérie pour essayer de faire progresser le concept d'indication géographique en Algérie. Quant au règlement communautaire, un mot sur les différents règlements communautaires. Les règlements de 1992 ont institué le principe du concept de l'indication géographique en Europe. Le règlement de 2006 a apporté la généralisation du logo. Je retiens ce qui a été totalement essentiel pour nous. Le logo unique de l'indication géographique et de l'appellation d'origine est un outil essentiel pour développer la confiance des consommateurs quant à l'identité qualitative des produits. Pour nous, ça a été un énorme succès de pouvoir profiter de ce logo. Et le règlement de 2012, le 1151, on voit qu'on progresse, a apporté l'obligation de protection d'office des indications géographiques en Europe, qui est encore un très grand progrès, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir recours aux tribunaux pour qu'une production qui, de toute évidence, n'est pas d'origine, donc qui est une imitation, soit bloquée par les pouvoirs publics, par les services douaniers, sans même l'intervention d'un juge. Voilà, je termine en disant que Origin est devenu un interlocuteur privilégié de la Commission sur les questions relatives aux indications géographiques. Les bénéfices que nous avons eus du règlement 1151 quant à la protection d'office et des indications géographiques, Origin est un peu à la base de tout ça, puisque c'était une idée qui venait de chez nous. Il y a aussi une intervention d'Origin qui a été très importante, c'est sur l'arrangement de Lisbonne, donc qui est un traité international sous l'égide de l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Cet arrangement de Lisbonne vient d'élargir son champ à toutes les indications géographiques. Là aussi, c'est une idée d'origine qui a été promue et qui est arrivée à son aboutissement. Quant aux IG non agricoles, Origine s'associe au développement des IG non agricoles. Nous soutenons l'établissement d'un règlement unique de protection des IG non agricoles qui prennent en compte leurs spécificités. Mais nous terminons, et je termine en disant que rien de tout cela ne serait possible sans une détermination politique de la Commission, du Parlement et de nombreux États membres en faveur de la protection des indications géographiques. Et je vous remercie.
Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.